Voilà, donc ça c'était White Riot des Clash. Alors les Clash, j'ai fait du Clash un groupe emblématique de la génération des connecteurs, parce que c'était le mouvement punk a été à la fois un rejet complet de ce qui existait et en disant qu'on devait s'approprier le futur. Le non-futur, c'est que y avait pas de futur. Moi je le lis comme ça en tout cas, et donc il faut qu'on écrive le futur. Et Joe Strummer, qui était le leader des Clash, disait toujours: The future is unwritten. L'avenir n'est pas écrit. L'avenir n'est pas écrit, c'est à nous de l'écrire. Et donc, c'est un message assez positif.
Florence, voix contre oreille, sur Aligre FM. Un soir de juin 2005, j'ai franchi le canal de l'Avon où se traînaient des péniches de promenade. Je me suis garée non loin du chemin de halage et j'ai marché le long de la berge. J'ai fini par découvrir un pub avec une terrasse au bord de l'eau. Il y régnait une atmosphère paisible. La conversation bruissait presque en silence, ce qui me changeait du tumulte pour moi insupportable des pubs londoniens. Je me suis presque tout de suite sentie chez moi. Après avoir commandé une tourte à la Guinness, j'ai rêvassé en suivant du regard les péniches qui venaient mouiller pour la nuit devant une série d'écluses. En feuilletant le journal local, j'ai alors compris pourquoi je me sentais si bien. Sans le savoir, j'étais entrée sur les terres du plus civilisé des villages britanniques.
Alors ce village-là est extraordinaire. Parce qu'on y a fait une expérience étonnante, c'est qu'on a supprimé tous les panneaux, toutes les signalisations sur les routes. Il n'y a plus rien, plus aucun, il y a plus de code de la route. Il n'y a plus rien. Donc quand on arrive, on roule au pas parce qu'on voit rien. Et la seule solution qu'on a de pas avoir d'accident, c'est de bien regarder où on va, et de bien regarder les autres. Résultat, moins d'accidents, les gens roulent moins vite, mais ils perdent moins de temps à traverser le village et tout le monde y a gagné.
Alors, réduction des contraintes, donc on légifère un petit peu moins, et le pouvoir est distribué donc entre les usagers, et en plus, ce qui est absolument sensationnel, c'est qu'il n'y a pas de menace d'amende, hein, là, il n'y a pas de
Non,
sanction,
non.
il n'y a rien à interdire, donc il n'y a pas d'amende non plus, quoi.
Non.
Alors ça, je ne sais pas comment, vous voyez, je disais, mais comment ça pourrait s'appliquer aux Parisiens? J'ai l'impression que là, c'est certainement très bien dans ce petit village, pas très loin de Londres, mais... J'ai l'impression que s'il y avait à Paris pas du tout de légifération, pas du tout de contraintes, je pense que ça serait un vrai, vrai pagaille.
Ben, il faudrait essayer déjà pour voir, parce que
Oui.
on est tellement habitué à avoir des contraintes que vivre sans contraintes, c'est difficile. Se retrouver d'un seul coup libre, il y aurait peut-être des excès, mais bon, l'expérience a été menée ailleurs que dans ce
Oui.
village. Elle a été
À Londres aussi, non?
à
Ou
Londres,
dans une
dans
rue?
une grande rue de Londres. Je ne connais pas le résultat encore parce que c'est en cours. Mais cette méthode est appliquée au Danemark, en Allemagne, dans beaucoup d'endroits. Les gens roulent moins vite, mais ils perdent moins de temps parce qu'ils ne s'arrêtent pas au feu. Donc on a des bénéfices. On a beaucoup de bénéfices. Tout le principe, c'est de responsabiliser les gens. C'est de dire, c'est vous qui êtes maître de votre destin et c'est vous qui créez la société les uns avec les autres. Donc, ça demande aux gens d'être civilisés, en fait. Et c'est une méthode qui est... Alors, la critique à ça, mais les gens ne sont pas civilisés. Mais il faut, si on n'est pas humaniste, si on ne croit pas à nous, moi, je trouve ça, c'est déprimant de ne pas croire à nous. Donc, il faut croire qu'on est capable de le faire et ça marche quand on le fait.
Voilà ce que vous dites. Personne ne nous dit plus ce qui est bon ou mauvais pour nous. Nous n'attendons plus rien d'une autorité supérieure. Nous agissons avec intelligence et notre intelligence s'enrichit à force d'interaction avec d'autres intelligences. Elle devient globale. Voilà. Alors, on parle, alors pour ceux qui nous prendraient en route, on parle, Thierry Crouzet, de votre livre qui est publié aux éditions Bourin et qui nous parle de ce peuple des connecteurs dont vous êtes un des représentants. Et là, je dirais que c'est presque avec ce livre-là une sorte de charte des
Ouais,
connecteurs.
c'est un manifeste qui se veut un non-manifeste parce que, comme on est censé être les connecteurs, on se lit les uns les autres en discutant, en dialoguant. La richesse du réseau qu'on est en train de former dépend de nos richesses individuelles. Parce que si moi je parle avec vous, si on a une vie différente, une formation différente, on va créer quelque chose d'intéressant plutôt que si on est tous les deux pareils. C'est pas intéressant de discuter avec des gens qui sont semblables. Donc les connecteurs, ils sont très divers les uns des autres pour pouvoir s'enrichir et à la fois. Ils sont attirés vers les autres. C'est pour ça qu'ensemble, on forme une intelligence qu'on appelle une intelligence collective.
Alors, en même temps, évidemment, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous disent, mais ce que dit Thierry Crouzet, c'est une forme, c'est un manifeste anarchiste. inévitablement, on pense à ça.
Ah, l'anarchie, au sens étymologique, ça veut dire absence de gouvernement. Mm-hmm. Donc, oui, je suis anarchiste si je le prends à ce sens-là. Mais bon, l'anarchie, telle qu'on l'entend en politique, c'est l'absence de loi. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas de loi. Je dis qu'il faut des lois. Trouver le jeu de loi le plus petit possible. C'est-à-dire qu'il faut des lois, certaines lois, mais il ne faut pas les multiplier à l'excès. À partir de là, on a vu pour les oiseaux, 3 lois suffisent à les faire voler en flotte merveilleusement. Si on rajoute des lois, elles ne servent à rien. Et au bout d'un moment, les oiseaux n'arrivent plus parce qu'on fait des simulations. On peut s'amuser à faire quand on fait des simulations, on peut s'amuser à rajouter des lois. Quelques lois continuent à voler en flotte un peu différemment. Puis on en met trop, ils ne volent plus du tout en flotte. C'est là que ça devient le chaos. Donc, il faut trouver le juste milieu, ça s'appelle la transition de phase, le point entre l'ordre et le désordre. Et la vie, elle aime bien le point exactement entre les deux. Et c'est ça qu'il faut régler. Notre société aujourd'hui, à mon sens, est trop vers l'ordre. On nous tire trop vers l'ordre. Il faut qu'on se recentre un peu entre l'ordre et le désordre. C'est là où c'est créatif, c'est là où on peut faire des choses merveilleuses.
Alors je voudrais qu'on revienne un petit peu à cette idée qui est de ne pas légiférer, de ne pas interdire. Ça nous donne une grande liberté, c'est vrai. Mais vous-même, vous vous posez cette question, est-ce que cette forme de libéralisme, cette absence de loi, enfin, ou de trop de loi, ne va pas conduire à un monde qui sera justement peut-être plus inégal et plus injuste que le monde centralisé ?
Aujourd'hui, est-ce que le monde centralisé est juste ? Je ne suis pas sûr. La première chanson que j'ai fait passer, ça dénonce justement les injustices. La seconde, Des Clash, aussi, c'est dénonce les injustices. Notre monde n'est pas juste aujourd'hui déjà. Déjà, il faut le savoir. Alors, ça vaut le coup d'essayer autre chose pour essayer de faire un monde plus juste. Déjà, il faut essayer, si on veut un monde juste, il faut essayer autre chose déjà. Donc, et le principe, c'est que le réseau, vu qu'on est connecté les uns avec les autres, on est plus au fait des vies des autres. Et en étant au fait de ces vies des autres, ça influence nos vies, ça influence les leurs, on influence nos vies. Et si on sent, par connexion, quelqu'un qui a un problème, on est plus près de lui. Donc on peut l'aider plus facilement. On ne demande pas à l'État de l'aider, mais on demande aux gens qui sont autour, au réseau. Donc le réseau, ce n'est pas forcément une personne, c'est un ensemble de gens qui peuvent venir en aide de quelqu'un ou d'un groupe d'autres gens. Il peut y avoir un morceau du réseau qui n'est pas bien et le réseau peut l'aider. C'est une façon presque biologique et naturelle de fonctionner qui me paraît plus humaine que d'attendre que l'État, on ne sait pas trop qui c'est, va faire quelque chose pour cette personne. Et aujourd'hui, ça ne marche pas ce système-là, il faut le voir. Et ça marche de moins en moins bien. Je suis en train de lire, moi, en ce moment, Tocqueville. Je sais que c'est un peu d'actualité, mais c'est par hasard. Comme je m'intéresse pas à l'actualité, je l'ai lu par hasard. Et Tocqueville dit une chose extraordinaire. Au début de la démocratie américaine, les gens, il insiste sur la liberté des gens et sur l'égalité de tout le monde. Il n'y avait pas l'idée de classe sociale à ce moment-là. Et si une route se faisait défoncer par la pluie devant un certain nombre d'habitations, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens le matin ? Ils se levaient, ils allaient arranger la route et tout redevenait comme avant. Aujourd'hui, si ça arrive devant chez moi, qu'est-ce que je vais faire ? Au mieux, je vais téléphoner au service de la voirie pour dire « faites quelque chose ». Au mieux, et même la plupart du temps, on ne fait rien, on attend que ça se passe. Donc, on se rend compte que ce qui a été le moteur des démocraties, aujourd'hui, ne fonctionne plus parce qu'on distribue tout, on demande tout à une entité qui est hors de nous, qui est quelque chose de mystérieux, et nous, on ne fait plus rien. Donc, c'est pour ça que les gens ne sont pas heureux, parce qu'ils attendent quelque chose d'ailleurs, alors que c'est à nous de faire les choses. Alors, c'est pour ça qu'il faut renverser un peu la vapeur.
Thierry Crouzet, on va avancer dans cet anti-manifeste des connecteurs et vous êtes, je dirais, le porte-parole de ces hommes et de ces femmes. Et dans le chapitre 3, vous nous dites, chaque chapitre a un titre, et le chapitre 3, c'est « Ne pas étudier ». Alors voilà, et vous reprenez cette phrase donc citée par Léon Blois, « Plus on est semblable à tout le monde, plus on est comme il faut. C'est le sacre de la multitude. Être habillé comme il faut, parler comme il faut, manger comme il faut, marcher comme il faut, vivre comme il faut. J'ai entendu cela toute ma vie. »
Oui, et on l'entend encore. Quand on dit aux jeunes il faut avoir de bons diplômes, on est en train de leur dire il faut que vous étudiez tous la même chose, que vous ayez tous les mêmes diplômes. Ok, il y a 200 ou 300, je ne sais pas combien de formations en France, mais peu importe. C'est pas beaucoup par rapport au nombre de jeunes. C'est-à-dire qu'on va dire aux jeunes, faites tous pareil. En gros, il y a quelques cases, choisissez une case et mettez-vous dans cette case. C'est pas très intéressant ce que je disais tout à l'heure. Pour qu'on interagisse, qu'il se passe des choses intéressantes, il faut qu'on soit chacun sa propre case et donc qu'on soit sa singularité.
Donc pour développer sa spécificité, pour vous, il faut sortir des sentiers battus. À force de leur dire oui, juste on se perd, on ne cherche pas ce qui est bien pour soi et on ne trouve pas sa propre direction. Ce qui est une chose quand même extrêmement difficile, trouver sa direction. Ça peut prendre des années et des années. Visiblement, vous avez trouvé assez jeune, Thierry Crouzet.
Mais non, j'ai fait des études, moi. Alors, vous voyez, j'ai fait des études d'ingénieur. Donc, je dis qu'il ne faut pas faire ce que j'ai fait, mais je l'ai fait par hasard. Ce qui compte, c'est pas grave de faire des études si on a la liberté à côté de s'intéresser à autre chose. Moi, j'ai fait des études d'ingénieur, donc j'ai étudié. Mais pendant ce temps, je faisais du jeu de rôle, je jouais dans un groupe de rock, donc j'ai fait autre chose. Ce qui compte, c'est d'essayer des choses et de se porter vers là où nos aspirations nous portent. C'est pour ça que je parle de Steve Jobs, qui est un modèle de cette façon de vivre. Et...
Alors, vous allez nous rappeler justement qui c'est.
Steve Jobs, c'est le fondateur d'Apple, oui. c'est presque le gourou de notre génération, de la génération que j'appelle des connecteurs, parce que, un, c'est un exemple parce qu'il a réussi, il a eu des déboires dans sa vie, il s'est fait virer d'Apple alors qu'il a créé, il a créé une autre boîte derrière qui n'a pas eu beaucoup de succès, en même temps il a créé Pixar, donc qui est aujourd'hui le plus gros studio d'animation au monde, et cette boîte Next qu'il avait créée entre-temps et qui ne marchait pas, a été rachetée d'Apple. Et ce qui s'est trouvé, c'est que tout ce qu'avait développé Next a permis de créer le Mac qu'on connaît aujourd'hui. Donc Steve Jobs a eu des hauts et des bas. Et le plus intéressant, c'est qu'il a quitté l'université tout de suite. Il s'est rendu compte que l'université aux États-Unis, il faut payer pour aller à l'université. Tout ça, il faut payer pour avoir un examen. Il s'est dit, pourquoi je payerai pour avoir un examen ? Je vais aller suivre, je paye pas. Je vais aller suivre les cours qui m'intéressent, au hasard, ceux qui m'attirent. Et puis on verra bien. Je prends un risque.
Oui, mais là, vous donnez l'exemple d'un génie, c'est un surdoué, ce mec-là.
Si je crois... C'est pas qu'il est surdoué, je crois pas qu'il soit supérieurement intelligent. Il a juste eu la liberté. C'est-à-dire qu'il a pris son destin en main. Et c'est ce que je crois qu'on doit essayer de faire, c'est d'encourager les gens à prendre leur destin en main. Je sais que c'est pas facile. Mais en tout cas, aujourd'hui, on les encourage. Au contraire, on vous dit suivez ce diplôme, allez jusqu'au bout et vous allez avoir un boulot. Mais c'est faux. Aujourd'hui, en ayant un diplôme, on n'a pas un boulot. Ça n'existe plus. Ça.
Mais on n'a pas un boulot, mais vous parlez quand même beaucoup de sujets dans votre livre, de sujets extrêmement brillants, de personnalités extrêmement brillantes, à l'origine de thèses, de recherches, des surdoués. Alors, on n'est pas tous, hein, on n'est pas tous aussi curieux, aussi inventifs.
Moi, je pense que si. Moi, je pense qu'on est tous, on est tous curieux et le moteur de la vie, ce qui fait l'intérêt de notre vie, c'est qu'on a tous des idées. On a tous des idées, qu'on le veuille. Alors, on n'a pas tous des idées géniales, mais il ne faut pas avoir des idées géniales. Quand on a des idées, il ne faut pas les mettre les taire. Et ce qu'a fait Steve Jobs, c'est qu'il a eu des idées, mais il a dit « Ok, moi, je crois à mes idées. » C'est juste croire qu'on peut changer les choses. Aujourd'hui, les gens croient qu'ils ne peuvent plus changer les choses. C'est l'histoire de la route qui est détruite. On n'a même pas l'idée d'aller réparer une route devant chez soi. Donc ça, c'est grave.
La philosophie centrale des connecteurs est née sous l'impulsion de Norbert Wiener.
Oui.
Vous allez nous dire qui c'est.
C'est un génie. C'est un des plus extraordinaires génies qu'on a jamais eu. Lui, à 18 mois, il a appris tout seul l'alphabet.
Oui.
Donc c'est déjà... Il est rentré à Harvard à 11 ans. Il en est sorti à 18. Donc voilà. Donc, c'est un génie. Mais après, il a une vie... c'est un uberlu. Hein. Je peux raconter une anecdote qui vaut le coup. Je ne l'ai pas raconté dans le livre. Parce que je n'ai pas trouvé comment la caser, mais elle est extraordinaire. Il déménage un jour. Et sa femme, sachant qu'il a un peu la tête en l'air, lui note sur un post-it. Quand tu rentres chez toi... pense qu'on a la nouvelle adresse. Et bien sûr, il fait des calculs sur le post-it. Le soir, il retourne à son ancienne maison. Et il s'est dit, mais on n'en habite plus là. Où c'est que j'habite ? Et il voit une petite fille dans la rue. Il lui dit, tu sais où c'est que les Weiner habitent maintenant ? Il lui dit, oui papa, viens avec moi, je te ramène à la maison. Donc voilà. Donc bon... Mais c'est pas un modèle, bien sûr, c'est pas un modèle. Mais cette personne-là, lui, sa grande force, c'est d'avoir prôné le généralisme. C'est-à-dire que pour comprendre le monde aujourd'hui, qui est de plus en plus complexe, on ne peut pas être juste mathématicien, juste chimiste ou juste quoi que ce soit. Il faut essayer de prendre toutes les facettes, d'avoir plusieurs arcs, cordes plutôt à son arc. Donc, et c'est vraiment, pour moi, c'est fondamental comme idée qu'on doit devenir des généralistes et non pas des spécialistes. Ça ne veut pas dire qu'on doit être nul dans son domaine, mais il faut essayer de voir les choses en grand.
Thierry Crouzet, on avance pas à pas hein, dans ce livre, chapitre par chapitre, chaque chapitre est représentant une idée maîtresse hein, de ce peuple des connecteurs. On va avancer, c'est-à-dire que juste après la pause musicale, on va arriver au chapitre « Ne pas promettre ». Et là, on reparlera bien sûr, vous allez redénoncer l'inefficacité des des structures centralisées et puis bien sûr toutes les promesses des politiques qui sont rarement tenues. En tous les cas, on se rend bien compte qu'une révolution est peut-être en marche, donc cette révolution des connecteurs. Je rappelle Thierry Crouzet, vous l'avez dit que vous êtes ingénieur informaticien, spécialiste international des nouvelles technologies, et vous avez publié alors une trentaine d'ouvrages sur le fonctionnement d'Internet, et ça a été publié aux éditions Microsoft Press et chez First, et vous êtes aussi l'auteur du guide des meilleurs sites web, et c'est un guide qui est mis à jour chaque année. Alors juste un petit mot, le meilleur site web aujourd'hui, on peut dire ce que c'est ?
Moi je dirais que c'est Wikipédia, l'encyclopédie libre. Pour moi, c'est pas de doute. Voilà, ça c'était les Arctic Monkeys. Alors pourquoi j'ai pris les Arctic Monkeys ? Parce que c'est un groupe qui s'est fait tout seul. Il s'est fait justement sans centralisation. Ils ne sont pas passés par les majors, par les rois du disque. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont joué de la musique. Ils ont distribué gratuitement leurs morceaux sur Internet. Et les gens ont aimé. Et de fil en aiguille, ils sont devenus aujourd'hui, je crois, ça va être le groupe le plus populaire en ce moment et le plus vendu. Donc moi je trouve ça merveilleux. Alors mes soeurs, ils ont été récupérés par les majors, mais c'est pas grave, ce qui compte c'est comment ils ont commencé. J'espère qu'ils vont rester libres.
On continue la lecture de votre livre, on en arrive au chapitre 4, Thierry Crouzet, ne pas promettre. Alors ça renforce évidemment cette idée que les gouvernements aujourd'hui dans ces structures aussi complexes sont totalement impuissants. Et dans chaque chapitre commence par quelques phrases. Donc voilà. Et alors je vais citer celle de Jacques Ellul qui illustre ce chapitre qui est consacré aux promesses. La mort d'Hitler n'a supprimé ni les camps de concentration ni la torture. Hitler n'avait fait que cristalliser à un moment donné les aspirations d'une société. C'est pour cela que même s'il existe, le chef d'orchestre ne m'intéresse pas parce qu'il est accidentel. Ce qui m'intéresse, ce sont les mécanismes.
Bah oui. C'est bon, ça résume tout ce que j'ai dit jusque-là. Oui. Alors, ce qui est drôle, c'est que Ellul, c'était un chrétien, Léon Blois aussi. Moi, je suis complètement athée, mais bon, il y a une convergence en ce moment des pensées de différents horizons. On arrive presque, beaucoup de gens arrivent à des mêmes conclusions.
Vous trouvez qu'il y a une convergence?
Oui, absolument, il y a une convergence. Et il y a même une convergence, je trouve, entre du radicalisme, par exemple, écologique ou autre, et des gens qui sont du côté des libéraux absolus. Je crois que tout le monde se rend compte qu'il faut changer les choses. Et on est en train de... Il y a ceux qui veulent changer les choses, qui ont compris que la centralisation était plus efficace, aussi bien à gauche, à droite, qu'au centre, n'importe où. Et il y a ceux qui veulent, au contraire, renforcer le système tel qu'il est aujourd'hui. Et pour moi, je sais pas que je me tromperai, hein, mais il y a un nouveau clivage qui est en train de se créer entre ceux qui veulent décentraliser, déverrouiller la société, et ceux qui croient qu'il faut de l'ordre pour la faire fonctionner.
Alors vous dénoncez donc l'inefficacité des structures centralisées et aussi le fait que les promesses des politiques sont rarement tenues. Vous dites, ils ne respectent pas leurs promesses, cela devrait être condamné, mais en fait, et là on commence à le comprendre, s'ils ne respectent pas leurs promesses, c'est pas parce que ça leur fait vraiment plaisir de ne pas le faire, c'est parce qu'ils ne le peuvent pas. Hein. Et vous parlez entre autres d'une expérience qui a été aussi menée, voilà. Et c'est effectivement cette expérience du tas de sable dont vous avez fait parler tout à l'heure. Et cette étude, mais en tous les cas, ce monticule de sable est assez riche d'enseignements. Alors, en deux mots, vous allez le redire parce que beaucoup de chercheurs l'ont étudié, hein, et c'est ce phénomène de l'avalanche. Et alors, on se dit, est-ce que les hommes politiques seraient donc des marchands de sable?
C'est ce que oui, là, je pose la question. Je pense que oui, ils sont des générateurs de hasard, en fait. Ils jettent des lois, ils jettent des graines de sable sur le sable et ils regardent.
Personne ne peut prévoir aujourd'hui l'avenir, personne ne le peut anticiper.
Oui. Alors, ce qui est rigolo, moi je trouve ça assez rigolo, c'est que on peut pas anticiper l'avenir, mais on arrive à tracer des lois quand même. Le hasard des avalanches, les avalanches respectent une loi, physique, ça s'appelle une loi de puissance. Et on ne sait pas de combien de grains va être l'avalanche, mais on sait que s'il y a 10 avalanches avec 100 grains, il n'y aura plus qu'une avalanche avec 1000 grains. Donc il y a une sorte de loi comme ça qui se crée.
Alors je vais vous lire. Hein. Pour beaucoup d'historiens, la Première Guerre mondiale débuta par l'assassinat de l'archiduc austro-hongrois François Ferdinand à Sarajevo. Le 28 juin 1914, le chauffeur de ce malheureux monarque se trompa de chemin. Engagé par erreur dans une ruelle, il s'immobilisa par hasard devant un étudiant, membre d'une organisation terroriste serbe, qui sortit un pistolet de sa poche et tira deux fois, une fois sur l'archiduc, une fois sur sa femme. Ce double assassinat accidentel servit alors d'alibi à l'Autriche pour envahir la Serbie. Une réaction en chaîne s'ensuivit qui plongea l'Europe dans le chaos. Est-ce l'erreur d'un chauffeur qui causa 10 millions de morts ou l'état critique dans lequel se trouvait le monde? Et pourquoi cet état critique était-il aussi instable? Voilà. Et ça nous ramène à la théorie, effectivement, du tas de sable.
Ben oui. Ouais.
Thierry Crouzet, on va s'interrompre quelques instants. Et puis, on va se retrouver. On va parler de ce peuple des connecteurs qui ne vote pas, qui n'étudie pas. On va voir qu'ils ne travaillent pas non plus. Petite erreur, parce que vous êtes, en général, je crois, de très gros bosseurs. Mais en tous les cas, vous vous apprêtez à changer le monde. Alors, ce livre, c'est un document qui est publié aux éditions Bourin Éditeur.